je ne m'attends pas à ce que vous soyez complètement transformé après avoir lu ce livre. Certains des points que j'ai abordés vous paraîtront plus faciles à comprendre que d'autres. Mais la vie a un effet évolutif. Le changement entraîne le changement. Le développement s'étend. En commençant à changer dans certains domaines, en développant ça et là vos capacités, vous transformerez lentement mais sûrement votre vie. Vous pouvez faire naître à la surface de votre vie des vagues qui prendront de plus en plus d'amplitude. On s'aperçoit quand on regarde en arrière que ce sont souvent les plus petites choses qui ont produit les plus grands effets.
Pensez à deux flèches pointées dans la même direction. Si vous en orientez une un tout petit peu plus à droite ou à gauche, la différence ainsi créée sera tout d'abord à peine perceptible. Mais si vous suivez cette nouvelle direction sur des centaines de mètres, puis sur des kilomètres, vous vous éloignerez de plus en plus de la première, jusqu'au moment où ce chemin n'aura plus rien à voir avec le premier.
C'est ce que ce livre peut vous apporter. Il ne vous fera pas changer du jour au lendemain, à moins que vous ne passiez la nuit à travailler sur vous-même. Mais si vous apprenez à diriger votre cerveau, si vous comprenez et si vous savez vous servir de la syntaxe, des sous-modalités, des valeurs, des métaprogrammes et d'une manière générale de tous les outils proposés, semaine après semaine, mois après mois, année après année, votre vie prendra une nouvelle orientation et n'aura un jour plus rien à voir avec ce qu'elle a été. Vous faites déjà à votre façon certaines des choses abordées, d'autres que vous avez découvertes pour la première fois. Mais tout dans la vie est cumulatif. Si vous appliquez un des principes de ce livre, vous faites un pas en avant. Vous exercez une impulsion qui va créer une force. Toute force produit un effet, un résultat. Tout résultat produit s'ajoute au précédent pour nous entraîner dans une direction. Et toute direction conduit à une destination.
Deux buts à viser. Obtenir tout d'abord ce qu'on désire et arriver ensuite à en jouir. Logan Pearsall Smith.
Voici maintenant venu le moment de vous poser une dernière question.
Dans quelle direction êtes-vous actuellement engagé? Si vous suivez cette direction, où vous retrouverez-vous dans 5 ou 10 ans? Et est-ce là que vous voulez aller?
Soyez honnête avec vous-même. Comme l'a dit un jour John Nesbitt, la meilleure façon de prédire l'avenir est de se faire du présent une idée claire. Aussi, quand vous aurez fini ce livre, asseyez-vous et réfléchissez au chemin que vous avez pris et ce à quoi il vous conduit. Si ce n'est pas ce que vous désirez vraiment, choisissez une autre voie. Si ce livre vous a appris une chose, c'est qu'on peut créer le changement presque en un éclair. Détenir le pouvoir suprême, cela signifie être capable de changer, de s'adapter, de se développer, d'évoluer. Quand je vous parle de pouvoir illimité, je ne veux pas dire que vous réussirez toujours et que vous n'échouerez plus jamais, mais que vous apprendrez quelque chose de toutes vos expériences. Et que vous en tirerez profit, que vous transformerez vos perceptions, vos actions et les résultats que vous produirez, que vous serez capable de donner aux autres cette attention et cet amour qui sont la qualité même de la vie.
J'aimerais vous proposer un autre moyen de changer votre vie et de vous assurer une réussite suivie. Trouvez une équipe dans laquelle vous voulez jouer. Nous avons, souvenez-vous, parlé du pouvoir en termes d'action conjointe. Le pouvoir ultime est le pouvoir de ceux qui agissent ensemble et non chacun de son côté. Cette équipe peut être votre famille ou un groupe d'amis, des associés ou des collègues de bureau. Mais on travaille mieux et plus quand on travaille aussi bien pour les autres que pour soi. On donne davantage et on reçoit davantage.
Si vous demandez aux gens de vous parler des expériences les plus enrichissantes qu'ils ont eues dans leur vie, ils évoquent généralement des choses qu'ils ont faites au sein d'une équipe. Il peut s'agir d'un sport qu'ils ont pratiqué avec une équipe qu'ils n'oublieront jamais, d'une tâche difficile qu'ils ont menée à bien avec des collègues de travail, ou de quelque chose qu'ils ont accompli avec leur famille ou leur conjoint. Si vous faites partie d'une équipe, vous avancerez plus vite, car les autres peuvent vous apporter un soutien ou une impulsion qu'il est impossible de trouver en soi. Les gens font souvent pour d'autres ce qu'ils ne feraient pas pour eux-mêmes, et ce qu'ils en obtiennent en retour les récompense.
Si vous êtes vivant, vous faites partie d'une équipe. Votre famille, le réseau de vos relations, votre groupe de travail, votre ville, votre pays ou votre monde sont autant d'équipes dont vous faites partie. Vous pouvez rester assis sur un banc et regarder, ou vous pouvez vous lever et jouer. Je vous conseille de jouer, de vous joindre à la horde, de partager, car plus vous donnez, plus vous obtenez. Et plus vous mettrez à votre service et à celui des autres ce que vous avez appris dans ce livre, plus vous en tirerez profit.
Assurez-vous que vous faites partie d'une équipe qui vous motive. Le cours des choses peut nous échapper. Nous pouvons savoir ce qu'il faut faire et ne pas le faire. La vie semble ainsi faite, et on ne regarde pas plus loin. Elle suit les lois de la gravitation et nous attire vers le bas. Nous avons tous nos mauvais jours. Nous passons tous par des phases au cours desquelles nous ne nous servons pas de ce que nous savons. Mais en nous entourant de gens qui réussissent, qui vont de l'avant, qui se montrent positifs, qui cherchent à produire des résultats et qui nous soutiennent, nous donnons les moyens de nous dépasser, de faire mieux et de partager davantage. Le plus beau cadeau que vous puissiez recevoir de la vie est d'être entouré de gens qui vous pousseront toujours à donner le meilleur de vous-même. L'association est un outil puissant. Assurez-vous que ceux avec qui vous vous associez feront ainsi de vous un être meilleur.
Une fois que vous faites partie d'une équipe, l'excellence vous lance un nouveau défi, devenir un meneur. Cela peut vouloir dire accéder au poste de président d'une richissime compagnie, ou être le meilleur professeur, le meilleur commerçant, le meilleur parent que vous puissiez devenir. Les vrais meneurs connaissent bien l'effet cumulatif. Ils savent que les grands changements viennent de nombreuses petites transformations. Ils ont conscience de ce que tout ce qu'ils disent et font peut jouer sur la vie des autres dans un sens positif ou négatif.
Lorsque j'étais au lycée, mon professeur d'expression verbale m'a dit un jour de rester en classe après les cours. Alors que je me demandais ce que j'avais bien pu faire de mal, il me parla très gentiment.
« Je crois, Monsieur Robbins, que vous avez le don de la parole et je voudrais que vous participiez la semaine prochaine à un concours. »
Je n'avais jamais pensé avoir un talent spécial dans ce domaine, mais il était si sûr de lui que je le crus. Et son message a changé ma vie. Il m'a mis sur ma voie, celle qui menait à ce que je suis aujourd'hui, un professionnel de la communication. Ce n'était qu'un grain de sable, mais qui a tout bouleversé.
Celui qui veut conduire les autres doit avoir suffisamment de force et de perspicacité pour prévoir à l'avance quels résultats produiront ses actions, les plus anodines comme les plus graves. Les techniques de communication que ce livre vous a présentées permettent d'établir clairement ces distinctions. Nos sociétés ont besoin de modèles, de symboles d'excellence plus nombreux. Ma vie est devenue ce qu'elle est parce que j'ai eu la chance de recevoir de certains de mes professeurs ou mentors des présents inestimables, et je me suis donné pour but de rembourser ce que je pourrais rembourser de cette dette. C'est ce que j'essaie de faire dans mon travail.
Mon premier mentor m'a appris que le bonheur et la réussite n'étaient pas le résultat de ce que nous avons, mais de la façon dont nous vivons. C'est de ce que nous faisons, avec ce que nous possédons, que dépend la qualité de la vie. Et nos gestes les plus anodins peuvent être ceux qui marqueront les différences les plus importantes. C'est ce qu'il m'a expliqué avec l'exemple du cireur de chaussures. Un homme cire vos bottes dans la rue. Tout en frottant, il siffle et vos bottes brillent. Son manière, son travail et la manière dont il l'accomplit ajoutent de la valeur à votre vie. Aussi, quand vous plongez la main dans votre poche pour en sortir quelques pièces et que vous vous demandez s'il faut lui donner 1 ou 2 francs, n'hésitez pas, choisissez toujours le chiffre le plus élevé. Vous ne le faites pas seulement pour lui, mais aussi pour vous. Si vous ne lui donnez 1 franc, chaque fois que vous regarderez vos bottes ce jour-là, vous vous direz
« Comment ai-je pu être aussi mesquin ?»
Si vous lui en donnez 2, vous aurez une autre idée de vous-même, une idée meilleure.
Pourquoi ne décideriez-vous pas de toujours tendre une pièce à ceux qui font la quête, pour une cause ou pour une autre ?
Ou de téléphoner de temps en temps à vos amis pour leur dire
« Je t'appelle sans raison précise, simplement pour te dire que je pense à toi. Je ne veux pas te déranger, je veux seulement que tu saches combien tu comptes pour moi. »
Ou d'envoyer systématiquement un mot de remerciement à ceux qui ont fait quelque chose pour vous.
Pourquoi ne consacreriez-vous pas consciemment quelques heures à chercher ce que vous pourriez faire pour tirer plus de joie de votre vie en ajoutant de la valeur à celle des autres ?
La qualité de la vie réside dans la façon dont nous passons le temps, ce temps dont nous disposons tous. Nous pouvons nous embourber dans la routine ou faire de chaque instant un instant unique. Les 2 francs du cireur semblent bien peu de chose, mais chacun de ces petits gestes assure l'idée que vous vous faites de vous-même une action puissante. Ils affectent les représentations internes que vous avez de votre propre personne et par là, la qualité de vos états et de votre vie. J'ai appliqué ce précepte et j'en ai été récompensé. C'est une philosophie qui enrichit la vie. Je la soumets à votre examen.
Celui qui, par quelque alchimie, sait extraire de son cœur pour les refondre ensemble compassion, respect, besoin, patience, regret, surprise et pardon, crée cet atome qu'on appelle l'amour. Khalil Gibran.
Je vais vous demander une dernière chose. Partagez cette information avec d'autres. Et cela pour 2 raisons.
Tout d'abord, parce que nous enseignons tous ce que nous avons le plus besoin d'apprendre. Partager avec d'autres une idée nous permet d'en entendre parler et de nous souvenir de ce à quoi nous accordons de la valeur, de ce qui nous paraît important.
Ensuite, parce qu'on trouve une richesse et un bonheur extrême, presque inexplicable, à offrir aux autres, chaque fois qu'on le peut, la possibilité de faire un pas en avant, de changer.
J'ai vécu l'année dernière, lors d'un de nos camps d'enfants, une expérience inoubliable. Pendant 12 jours, nous enseignons à ces jeunes bien des choses dont nous avons parlé ici. Et nous les aidons à développer leurs capacités, leur aptitude à apprendre, leur confiance en eux, en tant qu'êtres humains pleinement vivants. Le camp de l'été 1984 s'est terminé par une cérémonie au cours de laquelle tous les enfants ont reçu des médailles d'or semblables à celles des Jeux Olympiques et sur lesquels on avait gravé ces mots
« Tu peux faire des prodiges !»
Ce fut une fête très émouvante, très gaie, et nous avons veillé tous ensemble jusqu'à 2h du matin.
Je suis parti me coucher épuisé, sachant que je devais me lever à 6h pour prendre l'avion, mais avec le sentiment de satisfaction que l'on éprouve quand on sait avoir fait d'une journée un moment important. Au moment où j'allais m'endormir vers 3h, on a frappé à ma porte. Qui cela pouvait-il bien être ?
J'ai vu en ouvrant un jeune garçon.
J'ai besoin de votre aide, monsieur Robbins.
M'a-t-il dit. Je lui ai tout d'abord proposé de téléphoner la semaine suivante à San Diego. Puis j'ai entendu un bruit derrière lui. C'était une petite fille qui pleurait toutes les larmes de son corps.
Quand j'ai demandé ce qui se passait, le garçon m'a répondu qu'elle ne voulait pas retourner chez elle. Je lui ai proposé de la faire entrer. Je pouvais lui donner les points d'ancrage dont elle avait besoin pour se sentir mieux à l'idée de ce retour. Mais il m'expliqua que le problème était plus grave. Elle ne voulait pas rentrer parce que son frère qui vivait avec elle la forçait à coucher avec lui depuis 7 ans.
Après les avoir installés dans mon bureau, j'ai mis en œuvre les techniques dont nous avons parlé tout au long de ce livre. J'ai changé les représentations internes que la petite fille avait de ses expériences négatives afin qu'elle ne provoque plus en elle de douleur. Puis, je lui ai donné des points d'ancrage correspondant à ses états les plus puissamment positifs que j'ai associés et j'ai associé ces états aux nouvelles représentations internes que j'avais créées de façon à ce que la seule vue ou la seule pensée de son frère la mette dans un état où elle contrôlerait pleinement la situation. À la suite de cette séance, elle a décidé d'appeler son frère. Elle s'est dirigée vers le téléphone, pleine d'assurance, et l'a réveillé.
Écoute-moi, a-t-elle dit d'un ton qu'il ne lui avait probablement jamais entendu. Je vais rentrer à la maison, et tu feras mieux de ne même pas me regarder d'une façon qui me fasse croire que tu penses à ce que tu avais l'habitude de faire avec moi. Parce qu'autrement, tu passeras le restant de tes jours en prison, et je te ferai honte devant tout le monde. Tu paieras le prix à payer. Je t'aime parce que tu es mon frère, mais je n'accepterai plus jamais que tu te conduises comme avant. Et si jamais j'ai l'impression que tu as l'intention de recommencer, c'en est fini de toi. Dis-toi bien que je te parle sérieusement. Je t'aime, au revoir.
Il avait compris.
Quand elle a raccroché, elle se sentait pour la première fois de sa vie totalement forte et totalement responsable. Elle a serré dans ses bras son ami, et ensemble, ils ont pleuré de soulagement. Puis, ils m'ont tous les deux embrassé en m'étreignant de toute leur force. Le jeune garçon disait qu'il ne savait pas comment me remercier. Je lui ai répondu que rien ne pouvait me faire plus plaisir que de voir le changement qui s'était produit chez son ami. Mais il a insisté.
« Non, je vous suis redevable. » Et j'ai ici quelque chose à quoi je tiens beaucoup. Prenez-le. »
Il a enlevé sa médaille d'or et l'a accrochée à ma veste. Ils m'ont embrassé une dernière fois et sont partis en disant qu'ils ne m'oublieraient jamais. Je suis remonté dans ma chambre et je me suis mis au lit. Ma femme, Becky, qui avait tout entendu, pleurait, et moi aussi.
« Ce que tu as fait est extraordinaire, m'a-t-elle dit. Tu as transformé la vie de cette petite. »
« Merci, ma chérie, ai-je répondu, mais n'importe qui d'autre aurait pu le faire, à condition, bien sûr, de maîtriser ces techniques. »«
Oui, Tony, n'importe qui l'aurait pu, et pourtant, c'est toi qui l'as fait. »
Si tu pouvais seulement rêver assez, tu serais dans ce monde le plus puissant. Emmett Fox. Tel est le dernier message de ce livre. Agissez, prenez les choses en main, lancez-vous dans la course. Utilisez ce que vous avez appris ici, et ce, dès maintenant. Ne le faites pas seulement pour vous, mais pour les autres aussi. Vous y gagnerez plus que vous ne pouvez l'imaginer. Il y a beaucoup de beaux parleurs en ce monde, beaucoup de gens qui savent où sont le bien et le pouvoir, et qui ne produisent pourtant pas les résultats qu'ils désirent. Il ne suffit pas de prononcer la parole, il faut agir la parole. Le pouvoir illimité est celui qui vous fait faire ce qui est nécessaire pour atteindre l'excellence. Julius Erving a une conception de la vie qui résume, je crois, la philosophie de ceux qui agissent la parole.
J'exige plus de moi-même que quiconque ne pourrait jamais en attendre.
Voilà pourquoi il est le meilleur. C'est un exemple à suivre.
Il y a eu dans l'Antiquité deux grands orateurs, Cicéron et Démosthène.
Quand Cicéron avait fini de parler, la foule lui faisait une ovation et tout le monde s'écriait
« Quel beau discours !»
À l'instant où Démosthène se taisait, les gens criaient
« En avant !»
et ils allaient manifester. C'est ce qui différencie l'art de la présentation de celui de la persuasion. J'espère faire partie de ceux qui maîtrisent ce dernier. Si vous vous contentez de lire ce que j'ai écrit en pensant
« Toutes ces techniques sont passionnantes !»
et que vous n'en utilisiez aucune, nous avons, vous et moi, perdu notre temps. Mais si vous reprenez dès maintenant ce livre pour l'utiliser comme un manuel afin d'apprendre à diriger votre corps et votre cerveau, comme un guide qui vous permettra de changer tout ce que vous voulez changer, vous aurez alors peut-être entrepris le long voyage d'une vie qui fera presque paraître vos plus grands rêves du passé comme des banalités. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé à appliquer quotidiennement ces principes. Faites de votre vie un chef-d'œuvre, rejoignez les rangs de ceux qui agissent la parole. Ils sont les modèles de l'excellence et le reste du monde les regarde émerveillé. Entrez dans l'équipe de ceux trop peu nombreux qui font, alors que les autres voudraient bien, de ces gens tournés vers les résultats qui façonnent leur vie exactement comme ils souhaitent qu'elle soit. Ma vie s'inspire d'histoires vécues par ceux qui ont utilisé leurs ressources afin de produire de nouvelles réalisations, de nouvelles réussites, pour eux et pour d'autres. Peut-être un jour raconterai-je votre histoire. Si ce livre vous aide à avancer dans cette direction, je me considérerai comme un homme très heureux.
En attendant, je vous remercie de vouloir apprendre, de vouloir progresser et vous développer, et de m'avoir permis de partager avec vous quelques-uns des principes qui ont transformé ma vie. Puisse votre quête de l'excellence humaine porter ses fruits et ne jamais s'arrêter.
Puissiez-vous consacrer non seulement à tendre vers les objectifs que vous vous êtes fixés, mais les atteindre et vous en fixer d'autres.
Puissiez-vous non seulement poursuivre les rêves que vous avez formés, mais en imaginer de plus beaux encore.
Non seulement jouir de cette terre et de sa richesse, mais en faire un lieu meilleur.
Prendre non seulement ce que vous pouvez prendre de la vie, mais aimer et donner en toute générosité.
Que la route monte vers vous.
Que le vent souffle toujours derrière vous.
Que le soleil réchauffe votre visage.
Que la pluie tombe doucement sur vos champs.
Et jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau.
Que Dieu vous garde doucement au creux de ses mains.
Au revoir, Dieu vous bénisse. Et bien voilà, c'en est fait, pouvoir illimité est terminé. Il ne nous reste à vous signaler que la bénédiction, que le texte qui terminait ce livre était en fait une bénédiction irlandaise, copyright 1967, Bolling, INC, Boulder, CO 80302. À vous signaler également que pour toute information sur les séminaires d'Anthony Robbins, on peut écrire au Robbins Research Institute, 1223 Camino, Camino, Del Mar, Del Mar en deux mots, Mar, virgule Delmar à nouveau. Bah oui, c'est curieux, mais c'est comme ça. CA, les deux lettres C et A, 92 014. Enfin, ce livre serait incomplet si nous ne vous retransmettions pas également les remerciements d'Anthony Robbins.
Au fur et à mesure que je tentais de me remémorer tous les gens à qui je désirais exprimer ma gratitude pour leur appui, leurs suggestions et tous les efforts qu'ils avaient déployés pour permettre à ce livre de voir le jour, la liste ne cessait de s'allonger. Je voudrais tout d'abord remercier mon épouse et ma famille d'avoir su créer l'environnement permettant au flux de ma créativité de s'écouler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et d'avoir prêté à mes idées une oreille sympathique.
Je dois signaler ensuite, bien sûr, la tâche remarquable accomplie concurremment par Peter Applebaum et Henry Golden pour remettre en forme mes élucubrations. À diverses étapes de l'évolution de ce travail, les suggestions du White Woodsmall et de Ken Blanchard m'ont été extrêmement utiles. L'ouvrage n'aurait jamais été mené à bien sans la contribution de Jan Jan Miller et de Bob Asaina, qui, aidés par l'équipe de Simon et Schuster, sont demeurés pendant des heures à mes côtés pour opérer les modifications de dernière minute.
Je ne pourrai jamais oublier les enseignants dont la personnalité, les méthodes et l'amitié m'ont le plus marqué, de John Morrison et Richard Gobb, avec qui j'ai mené mes premiers travaux sur la communication, à John Grinder et Richard Bandler.
Je dois aussi des remerciements aux maquettistes, secrétaires de rédaction et documentalistes Bob Evans, Dan Harris, Donald Bodenbach, Cathy Woody et bien sûr Patricia Valiton qui ont travaillé dur pour respecter les délais imposés.
Et last but not least, je voue une gratitude particulière au personnel du Robbins Research Institute, aux directeurs de centres et aux membres des équipes de promotion disséminées dans tous les États-Unis qui m'aident quotidiennement à communiquer notre message au monde.
Et enfin, nous vous remercions tous, chers auditeurs, Marie-Hélène et moi-même, de votre écoute attentive sans laquelle cet enregistrement n'aurait pas pu avoir lieu. En votre nom à tous, je remercie également tout particulièrement Marie-Hélène, sans laquelle la variété de cette émission et la qualité des textes lus aurait sans doute beaucoup perdu. Avant de vous confier à la voix de Marilyn Ferguson, par laquelle je souhaite terminer ces enregistrements, ces 22 émissions sur Fréquence Bonheur, il nous reste à vous souhaiter, Marilyn et moi-même, une très bonne route. Merci de nous avoir suivis jusque-là, et à bientôt, peut-être un jour sur la route.
The idea of World War IV is to create a kind of symbolic act worldwide and to all of us acknowledge to each other that we're going to make war on the patterns of war, on the things that happen inside of each of us that ultimately lead to war.
Alors la quatrième guerre mondiale, c'est un acte symbolique. Il faut que chacun comprenne que nous déclarons la guerre à la guerre. C'est-à-dire la guerre à nos propres structures de pensée, à celles qui nous ont menés à ce qu'on a connu dans le passé, c'est-à-dire au désastre.
All over the world are all of these people who want a better world and a better life, but we don't realize how many people there are who feel that way, that this is the consensus.
Yeah.
And that if we start standing up publicly in groups and saying this is what we believe, that it's within our power to change things and to make the world the way we want it to be, then individuals will begin to take responsibility and to take heart and to have hope and to work together.
Partout dans le monde, il y a des gens qui appellent un monde meilleur. Mais on ne se rend pas compte, nous sommes des millions à vouloir la même chose. Et si nous avons le courage d'afficher publiquement cette conviction en nous disant c'est cela que nous voulons, c'est à ça que nous croyons, nous allons créer une force, une forme de pouvoir qui fait que des individus, d'autres individus commenceront ou recommenceront à croire et à prendre une responsabilité et à avoir le courage et l'espoir qu'il est possible d'agir et de travailler ensemble.
People don't realize that we create the world after the images we hold in our minds. The whole world is the product of the symbols that we held before. And so if our symbols are of, let's say, national domination,
on ne réalise pas assez que nous créons le monde par les images mentales produites par notre cerveau. C'est un fait que le monde entier est le produit des symboles auxquels nous avons eu recours dans le passé. À une vision de nationalisme, de domination, de manipulation, a répondu nécessairement à un monde fait de nationalisme, de mensonges et de domination. Mais si notre symbole est réunion, intégrité, beauté et lumière, le monde prendra cette couleur forcément.
Je crois qu'il nous a semblé difficile de mieux conclure cette émission. C'était Marilyn Ferguson, journaliste, qui a collaboré à de nombreuses revues américaines. Elle édite actuellement à Los Angeles le Brain My Bulletin, consacré à l'étude des phénomènes de conscience. Son précédent ouvrage, La Révolution du Cerveau, a connu un grand succès et a été traduit en plusieurs langues. Chers auditeurs, à bientôt, très certainement sur les ondes de Fréquence Bonheur, pour une prochaine émission.
Au revoir.